Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu ce soir dans le deuxième livre des Rois au chapitre 7 et au verset 1. Deux Rois, chapitre 7, verset 1. Alors Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi a dit l'Éternel, demain à cette heure, la mesure de fine farine sera à un sicle et la double mesure d'orge à un sicle à la porte de Samarie. » Ce soir, avec ce titre, les pertes et les gains de la ville. Nous revenons en 850 avant Jésus-Christ, dans la ville de Samarie, la capitale du royaume du Nord, les 10 tribus du Nord Israël, la capitale de ce royaume sous le règne du roi Joram, est assiégée par Ben-Hadad de Syrie. Et le siège a duré un certain temps, et les gens commencent à avoir faim. Dans la ville, il y a une grande souffrance, une souffrance terrible, une famine terrible. Et le roi, un roi méchant, décide qu'Élisée doit être mise à mort. À présent, Élisée est devant le roi et devant quelqu'un qui est probablement un premier ministre. Au verset 2, mais l'officier sur la main duquel le roi s'appuyait, un ministre important devant le roi, Élisée se tient devant eux et donne cette prophétie, l'une des prophéties à court terme d'Élisée. Et elle s'est accomplie. Et le roi savait ceci. Il aurait dû le respecter parce qu'il était prophète de Dieu. Demain, à 7 heures. C'est incroyable. La mesure de fine farine sera si peu chère. Alors qu'à présent, il meurt de faim. Demain, tout sera si différent. Ils se moquent de lui et ils sont incrédules. Et ceci nous amène à un premier point. L'incrédulité n'est pas raisonnable. L'incrédulité semble si raisonnable quand nous sommes incroyants. Nous pensons et nous imaginons qu'il y a tant d'objections intellectuelles à la foi chrétienne. Nous pensons que l'incrédulité est raisonnable. Mais c'est une chose complètement irraisonnée. Et nous voyons ceci ici. Il y a le prophète de Dieu, là, dans ce récit, qui a été utilisé par Dieu pour faire des miracles extraordinaires. Et il savait ceci très bien. Il a cette capacité de donner des prophéties qui l'authentifient personnellement, parce que ces prophéties s'accomplissent très rapidement, des choses que vous n'auriez jamais pu prédire, des situations qui sont transformées complètement. Ils auraient dû croire, ils ont été enseignés pour croire dans le Seigneur et ils ont toutes ces preuves également, ces démonstrations de la puissance de Dieu dans leur vie en tant que nation. Mais ils ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas croire. Et c'est complètement irraisonné. Au verset 2, cet officier, ce premier ministre, sur la main duquel le roi s'appuyait, répondit à l'homme de Dieu et dit « Quand l'Éternel ferait maintenant des fenêtres au ciel », ce terme « fenêtre », c'est comme ces grands barrages qu'ils ouvraient pour faire passer l'eau. Même si Dieu ouvrait les fenêtres du ciel et que l'eau coulait, ceci serait impossible, ceci complètement absurde. Élisée lui dit « Voici, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » L'incrédulité est irraisonnée. C'est difficile de se mettre dans la position de ce roi. Nous n'avons pas de prophètes de nos jours qui donnent leurs paroles et des choses remarquables se passent. Nous n'avons pas de prophètes de nos jours. Dieu a arrêté ceci il y a bien des siècles, mais pour eux, c'était irraisonné. L'incrédulité pour nous est également irraisonnée. Et j'aimerais rapidement continuer parce que j'aimerais recouvrir tout ce passage remarquable. Pensez à la complexité de la création, pensez à la complexité de nous-mêmes en tant qu'être humain. Pensez un peu à l'être humain, à la conscience. Personne ne comprend ceci. Le fait d'être conscient que nous sommes en vie, la vie consciente. Oh, les gens font des recherches dans ce domaine. Les gens sont intéressés. La recherche médicale est intéressée. Mais nous ne comprenons pas ces choses, pas du tout. Nous ne comprenons pas la nature humaine. Il y a la capacité de raisonner, de réfléchir, cette capacité que nous avons de penser, de décider, de déterminer les choses bien supérieures aux animaux. Et également, nous cherchons en vain des maillons manquants entre les animaux supérieurs et l'être humain. Quand vous pensez à la mémoire, je lisais encore récemment que les scientifiques peuvent scanner le cerveau et dire « Oh, il y a quelque chose qui se passe ici et là, et si une personne a de mauvais rêves ou pense à quelque chose, nous pouvons voir qu'il y a une preuve de toutes sortes d'activités dans le cerveau, mais personne ne peut expliquer ces choses ou comprendre ces choses. C'est tellement compliqué, la mémoire. Comment est-ce que ceci fonctionne? Qu'est-ce que c'est que la mémoire? Tout ce que nous savons, c'est que vous mettez ceci dans un coin du cerveau et ceci ressort sans aucun problème. Mais comment est-ce que ça fonctionne? Nous ne comprenons pas. Et la capacité du langage, la complexité du langage, ceci ne peut pas avoir évolué. Les gens sont nés pour parler. Dès le début, c'est une capacité extraordinaire de l'être humain. Et vous pensez également à la créativité, à l'innovation, d'autres dons humains, la conscience. Pourquoi est-ce qu'elle est là? Pourquoi est-ce que nous pouvons être convaincus de péché? Et la conscience nous parle, mais nous ne pouvons pas garder les critères moraux de notre conscience. Et cet instinct pour Dieu, cet instinct pour l'éternité, comment est-ce que vous expliquez ces choses? D'où est-ce que ceci vient? Ces choses, nous ne pouvons pas les expliquer. C'est si irraisonné d'être incrédule. Nous voyons des choses si merveilleuses. Nous avons tant de preuves de Dieu qui est derrière la création, derrière l'univers, qui a créé tous ces systèmes si complexes et toutes choses. Mais nous ne voulons pas croire, parce que l'incrédulité n'est pas un produit de la pensée, c'est un produit du cœur. Nous ne voulons pas croire, nous ne voulons pas rendre compte à Dieu, nous ne voulons pas les critères moraux de Dieu, nous ne voulons pas rendre compte un jour devant Dieu, ou même de penser qu'il existe. Ceci vient du cœur, un cœur qui a chuté loin de Dieu, le cœur de l'humanité, non pas la pensée. C'est toujours irraisonné. Et je dois continuer rapidement, parce que nous avons là ce récit devant nous. Vivre pour le temps présent, en oubliant Dieu, en oubliant l'éternité, en vivant pour les choses présentes et en prenant plaisir dans tout ce que vous pouvez faire, peu importe si c'est quelque chose d'éthique, de moral, en oubliant Dieu, le gain à court terme semble fonctionner parfois. Ça semble marcher parfois. Et c'est le cas ici. Nous voyons la ville de Samarie qui est désespérée et les gens meurent. Il n'y a pas d'espoir. Nous lisons au verset 3. Or il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux. C'est là qu'étaient les lépreux, en dehors de la ville, à la porte, dans des abris séparés de la communauté. Et il y en avait beaucoup à l'époque. Mais il y en a 4 ici, dont le texte se réfère. Simplement certains. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Pourquoi demeurons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions ?» Il ne semble pas qu'ils avaient entendu la prophétie d'Élisée, qu'Élisée a donnée au roi. Au verset 4, « Si nous parlons d'entrer dans la ville, ils n'avaient pas le droit d'entrer dans la ville, mais s'ils y entraient, la famine y est, et nous y mourrons. Et si nous demeurons ici, nous mourrons également. » Voici, là, ils sont complètement désespérés. « Venez donc et glissons-nous dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. » Ceci, c'était de la folie, parce que, alors que les Israélites étaient bons envers les lépreux, ils leur donnaient à manger et les aidaient à vivre là en dehors de la ville, mais les Syriens les auraient mis à mort. Ils ne les laissaient pas vivre à l'époque. Ainsi, ces deux nations faisaient face à la lèpre de manière très différente. La lèpre était assez différente de la lèpre d'aujourd'hui. Ils sont désespérés. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Ceci est impossible. S'ils nous font mourir, nous mourrons. Dans l'attitude de ces lépreux, vous voyez qu'il y a ce désespoir. C'est comme nous. Je veux vivre ma vie dans ce monde. Et si j'entends parler de Dieu, je vais ignorer ceci. Et j'espère simplement qu'il est là, et s'il existe, et si ceci est vrai, alors que tout ira bien pour moi à la fin. Tout ira bien. tout ira bien. Comme eux, comme ces lépreux. Nous allons mourir si nous allons dans la ville, nous allons mourir si nous restons ici, allons vers les Syriens. Vous allez mourir là-bas, mais un espoir, un petit espoir que peut-être nous n'allons pas mourir. Mais c'est ainsi que nous sommes, si nous sommes loin de Dieu, que nous n'avons jamais recherché sa puissance et que nous ne sommes pas convertis, peut-être à court terme, tout ira bien. Ces lépreux vivaient et tout allait bien à court terme. C'est pourquoi, verset 5, à l'entrée de la nuit, ils se levèrent pour aller au camp des Syriens et vinrent jusqu'à l'une des extrémités du camp. Ceci est très intéressant, même avant de continuer. Ils vinrent jusqu'à l'une des extrémités du camp. Ceci signifie l'extrémité la plus loin possible de Samarie. Ils se sont perdus. Ils savaient que le campement était par là-bas, mais ils ne savaient pas comment y aller. Et là, dans la nuit, dans la pénombre, ces lépreux, peut-être qu'ils étaient blessés. Beaucoup de ces lépreux avaient des blessures ouvertes. Et ils ont perdu leur chemin et ils sont allés dans l'extrémité opposée du camp. Ils allaient être tués par les Syriens. Ils ne connaissaient pas le chemin où ils allaient, quel était leur avenir. Et ils arrivent dans une tente des Syriens. Une situation désespérée. Comme nous, nous vivons pour ce monde présent. Vous ne savez pas où vous allez éternellement. Vous ne savez pas comment y arriver, arriver dans un bon endroit. À court terme, peut-être que tout se passe bien, mais qu'en est-il du long terme? Ils vinrent jusqu'à l'une des extrémités du camp, et voici, il n'y avait personne. Voici l'explication qui nous est donnée au verset 6, « Car le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, et ils en ont conclu que les Israélites avaient l'aide des Hittiens, des Égyptiens, et qu'ils venaient pour sauver la ville de Samarie. Ainsi, les Syriens ont fui, et les lépreux ont trouvé un camp vide. Et au verset 8, quand ils sont arrivés dans le camp, ils sont entrés dans une tente, ils ont mangé, ils ont bu, et ils ont pris de l'argent, de l'or, des vêtements, et ils ont caché tout ceci. La chose inattendue s'est passée. Aucun Syrien, personne. Mais tout ce que les Syriens ont volé partout où ils passaient, tout ce qu'ils ont pillé, de l'or, de l'argent, des vêtements, tout ceci était dans les tentes. Et les quatre lépreux se sont servis. Et ils ont caché ces choses. Ou, il semble qu'ils ont pris ces choses hors du camp. Ceci a pris un certain temps. Et ils ont probablement caché ceci dans les arbres, quelque part, sous les arbres. Et peut-être en essayant de se rappeler où ils cachaient tout ceci, et ils ont enterré tout ceci. Et qu'est-ce qu'ils allaient faire avec cela? Ceci, c'est de la folie. Parce qu'ils ne peuvent pas vivre là pour toujours. Cette nourriture va pourrir et les animaux vont manger les choses, tout va disparaître et s'ils retournent dans la ville, même s'ils sont riches, qu'est-ce qu'ils vont faire avec tout ceci? Ils sont encore lépreux et ils habiteront toujours encore en dehors de la ville. Ils ne peuvent pas utiliser cet argent, ils ne peuvent pas avoir tout le bénéfice de cet argent. Ceci n'a pas résolu leur problème, pas du tout. À court terme, ils sont heureux. Voyez tout l'argent, tous les vêtements qu'on a trouvés, l'argent, l'or. Mais ils ne pouvaient rien faire avec ces choses. De même pour nous, chers amis. Si je rejette Dieu, si je ne suis pas intéressé par Dieu, si j'ai la réussite, l'argent, je fais tout ce que je veux, toutes mes distractions, je fais tout ce que je veux. Oui, mais où est-ce que je vais? Vous vieillissez et il y a d'autres choses dans la vie qui vont aller de travers, et vous n'allez pas réussir, vous allez échouer, vous aurez des temps de déception et de tristesse, peut-être que vous allez être malade, vous allez vieillir, vous allez mourir, et toutes ces choses, quelle est leur valeur? Vous êtes encore un lépreux spirituel, une âme perdue, et Dieu va devoir vous laisser en dehors du mur, en dehors de la ville, vous allez devoir faire face au jugement, à la condamnation, ceci est tout à court terme, comme pour ces lépreux. C'est là la morale de l'histoire, le message spirituel de ce récit. Dans ce texte, l'Esprit-Saint nous donne tous les détails en ralentissant sur ce texte parce qu'il y a un message pour nous, une morale spirituelle. L'incrédulité est complètement irraisonnée et notre vie dans sa nature même est à court terme. Chers amis, soudainement, ils réalisent quelque chose. Au verset 9, « Alors ils se dirent l'un à l'autre, nous ne faisons pas bien. Ceci, c'est minimiser leur erreur. Ce jour est un jour de bonne nouvelle pour les gens de Samarie, pour les Israélites, pour notre peuple. Ils sont sauvés, l'ennemi a disparu et ils ont toute cette nourriture là pour eux, à volonté. Et nous, nous gardons le silence. Si nous attendons jusqu'à ce que le jour soit venu, le châtiment nous atteindra. La condamnation peut-être, la condamnation du roi, la colère de la ville de Samarie, la colère du roi. Venez donc, allons l'annoncer à la maison du roi. Ils réalisent ces choses, ils sont alarmés. Parfois nous avons ceci dans notre vie, quand nous fuyons loin de Dieu, que nous sommes loin de lui, et nous sommes déprimés, et nous sommes surmontés par ces pensées. Pourquoi la vie? Quel est le but? Qu'est-ce que je fais? Imaginons que Dieu est là et que je suis jugé, condamné par lui, sous sa condamnation. Un jour, je serai condamné. Et ces pensées viennent. Et ils ont eu cette réalisation tout d'un coup, soudainement. Au verset 10, probablement, ceci a pris un certain temps. Ils s'en allèrent donc, appelèrent les gardes des portes de la ville et le leur annoncèrent en disant « Nous sommes arrivés au camp des Syriens et voici, il n'y a personne et on n'y entend la voix d'aucun homme, mais il n'y a que des chevaux et des ânes attachés et les tentes telles qu'elles étaient. » Alors les gardes des portes crièrent et transmirent ce rapport à la maison du roi et sont pleins de suspicion. Et le roi se leva de nuit et dit à ses serviteurs, « Je vais vous dire ce que les Syriens nous ont fait. Ils savent que nous sommes affamés. Ils seront donc sortis du camp pour se cacher dans la campagne, disant, « Quand ils seront sortis de la ville, nous les prendrons vifs et nous entrerons dans la ville. » Ils ne croient pas que ceci est vrai. Ils pensent que c'est une stratégie pour attaquer la ville. Ils trouvent que c'est très suspect. Ils ne croient pas dans la prophétie d'Élisée. Il n'y a personne qui est là sur la muraille de Samarie pour regarder si l'ennemi est encore là. De quoi est-ce que Élisée parle? La farine, l'orge, qui est très peu chère. Alors ils devraient patrouiller pour voir s'il y a encore l'ennemi qui est là, s'ils sont encore assiégés et occupés. Ils n'ont même pas fait ceci. Et quand ces quatre lépreux reviennent et disent que l'ennemi a disparu, ils ne les croient pas. Et tous les gens autour du roi essaient de le persuader pour qu'il envoie un groupe pour aller inspecter le camp ennemi. Et finalement, il envoie des troupes. L'un des serviteurs répliqua que l'on prenne 5 des chevaux qui sont demeurés de reste dans la ville. Au verset 14, ils prirent donc 2 chars avec leurs chevaux. Au verset 15, ils sont allés jusqu'au Jourdain. Et voici, tout le chemin était couvert de hardes et d'armes que les Syriens avaient jetées dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi, et le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et c'est extraordinaire, comme notre expérience. Quand vous entendez parler de Dieu, que vous venez, que vous entendez un prédicateur quelque part qui prêche par rapport à Christ, au salut, et le pardon libre de Dieu, que Christ est venu du ciel pour souffrir, pour mourir pour les pécheurs à la croix du calvaire, pour porter notre condamnation, pour payer le prix, pour que nous puissions être pardonnés. Quand nous entendons ces choses, nous ne croyons pas, nous ne sommes pas prêts à recevoir ce message. De même pour moi quand j'étais jeune. Et souvent, d'année en année, j'ai réalisé que souvent les gens ne croient pas et trouvent que c'est plutôt suspect. Que Dieu vienne pour souffrir la condamnation pour mon péché à ma place. Dieu ne peut pas simplement pardonner. Dieu ne peut pas fermer les yeux au péché, à moins que quelqu'un ne souffre et ne paye le prix à cause du péché. Et Dieu est venu lui-même pour porter la condamnation, le péché de tous ceux qui se confient en lui. Quand nous entendons ceci, le plan du salut, la méthode de Dieu pour nous pardonner. Parfois, nous disons « Oh non, c'est trop simple. C'est trop simple. Moi, je peux être pardonné tous mes péchés et avoir la vie éternelle parce que Dieu lui-même a payé le prix. C'est trop simple. » Ne dites jamais ceci. Comment est-ce que ça peut être simple quand ceci a coûté tant à Dieu, la deuxième personne de la Trinité, est venu du ciel sur cette terre. Lui, dont l'âme est pure, sainte, parfaite, a été recouverte de la culpabilité de notre péché. Il a souffert notre condamnation, la condamnation éternelle que nous aurions dû souffrir. Et ceci comprimé dans l'espace de 6 heures à la croix du calvaire. Ceci ne peut pas être simple. C'est une souffrance, une agonie, une souffrance infiniment plus grande que toute la somme de toute la souffrance que tous les êtres humains ont connue dans toute l'histoire du monde. Ceci, ce n'est pas simple. C'est un acte divin extraordinaire. Que lui porte nos péchés. C'est un acte d'amour infini. C'est extraordinaire. Que Christ ait pitié de nous, qu'il nous aime tant et qu'il soit prêt à nous sauver, tous ceux qui venons à lui de cette manière-là. Quand nous entendons ce message, nous disons « Non, ceci est trop beau pour être vrai » ou « C'est trop simple » ou quelque chose du genre. Et c'est exactement ce que le roi Joram et son premier ministre pensaient. Mais ne pensez pas ainsi, chers amis. Le temps est presque passé. Quand j'étais jeune, et ceci est vrai pour certains d'entre vous également, à l'époque, j'étais à l'école et il y avait tous les jours une méditation, le matin. Et beaucoup de ces choses qu'on nous enseignait, les choses de la foi chrétienne, et où on nous parlait de Christ, de la croix, du calvaire, de sa mort expiatoire, de sa mort de substitution pour les pécheurs. Des années après, quand j'étais chrétien, j'ai repensé à ces moments et je me disais oui, je me souviens qu'on m'a enseigné des choses entièrement vraies de la parole de Dieu, mais à ce moment-là, à l'époque, pour moi cela ne signifiait rien. À ce moment-là, je n'ai rien compris. En tant qu'enfant, en tant que jeune, pourquoi ? Parce que je ne voulais pas comprendre. Ainsi, je rejetais ce message et je ne l'écoutais pas et je ne le comprenais pas. L'événement le plus grand de tout l'univers, l'événement le plus important de toute l'histoire, la souffrance et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ pour les pécheurs, m'était expliqué et moi je ne comprenais pas. Est-ce votre cas également? Vous ne connaissez pas le plan du salut? La bonté, la miséricorde de Dieu. Les gens de Samarie ne savaient pas que le camp des ennemis était vide. Le camp des Syriens. Peut-être que vous, vous ne savez pas où vous en êtes. C'est tragique, chers amis. Quand j'ai compris pour la première fois, je me suis dit, ça ne peut pas être vrai. Je pensais même que tout ce message, c'était simplement inventé par l'Église pour récolter notre argent. C'est une chose ridicule que de penser ceci. Les tentacules de l'incrédulité nous entourent et nous retiennent. Ce n'est pas facile de rejeter l'incrédulité. Dès que vous commencez à prendre ce message au sérieux et à rechercher le Seigneur, l'incrédulité essaie de vous retenir tout de suite et de vous empêcher de venir à Dieu. Les prédicateurs de siècle en siècle utilisaient des paroles puissantes. Et ils disaient à leur foule, comme George Whitefield, dans le parc du Kennington Common, au XVIIIe siècle, pendant le Grand Réveil, ou les prédicateurs dans leur église, dans leur assemblée, et ils disaient « Criez à Dieu, courez à lui, et c'est urgent, et c'est le message dont nous avons besoin. Priez Dieu pour qu'il ôte ses tentacules de l'incrédulité, qu'il vous donne la compréhension, qu'il vous montre ce qu'il a fait pour sauver les pécheurs, pour qu'il puisse vous montrer la bénédiction d'être un chrétien et d'être sur le chemin du ciel. Criez à lui, criez à l'aide et dites-lui que vous avez besoin de la vie spirituelle. Dites-lui que vous avez besoin de sa bénédiction, de son aide et de la vie éternelle. Dites-lui que vous êtes honteux de votre orgueil, de tous vos péchés et de votre incrédulité, de votre voix insensée, parce que vous l'avez rejetée et vous l'avez insultée. Dites-lui que vous êtes honteux. Parlez à Christ. Dites-lui que vous croyez qu'il est venu et que vous voulez croire, « Seigneur, je crois, Seigneur, viens-moi en aide à cause de mon incrédulité. » Vous voulez croire en Christ, en ce qu'il a fait pour les pécheurs à la croix du calvaire, et soyez francs et donnez-lui votre vie et demandez-lui de clarifier votre esprit, de vous délivrer des tentacules de l'incrédulité et de vous recevoir et de faire de vous son enfant. Et c'est là ce qu'il fera. Et alors vous serez complètement transformé et différent et vous allez le connaître et vous allez l'expérimenter et vous serez plein de joie, chers amis. Venez à lui. Ce texte nous donne ce message. Même si c'est de 850 avant Jésus-Christ, ce texte fait partie du livre de Dieu et nous parle. Prions ensemble. Ô Dieu, notre Père céleste, ouvre nos yeux, nous te prions. Aide-nous à voir que ces choses sont urgentes. Et la nature de la conversion à Christ. Seigneur, viens et œuvre dans chaque cœur, nous te prions. Et bénis-nous à présent, ce soir, nous te le demandons. Dans le nom de notre bien-aimé Sauveur, pour sa gloire. Amen.